le monde il est beau, tout le monde il est gentil.
Le bavardage philosophique contemporain a ceci de différent des époques précédentes, et c'est que, enfin démocratisé, une proportion bien plus grande de notre population mondiale le pratique désormais. La culture vulgarisée, donc devenue vulgaire au sens étendu du terme, a effectivement permis à toute une partie d'une classe à l'époque réputée populaire de se hisser au rang de ces bourgeois qu'ils critiquaient jusqu'ici. Ils en ont adopté les modes de vie, superficiels et frivoles, enclins même à la corruption, qu'ils condamnent par ailleurs à grands cris, et ont surtout permis à l'hypocrisie de devenir la norme qu'elle se trouve être actuellement au sein d'un libéralisme économique particulièrement friand en cette matière. La philosophie est devenue progressivement cette suite de déclarations incessantes au sujet d'un humanisme que plus personne bientôt ne pratique. Cette philosophie désormais se décentre et préfère la déconstruction, la rhétorique tapageuse abstraite et se soucie du monde réel comme d'une guigne. Il est vrai que l'abstraction a eu le grand mérite de nous présenter la vérité comme une chose impossible à faire entrer dans les concepts d'évolution aussi pratiques que démagogiques. La philosophie devient donc cette lettre de noblesse, symbole de l'abstraction, et qui permet à tout un chacun de faire exactement ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, et dans les conditions qu'il veut, sans aucun souci de correspondance avec une morale quelconque, celle-ci ayant passé à la poubelle avec l'obsolescence de vérité décrétée. De cette évolution en putréfaction d'âme, la gauche n'a, semble-t-il, pas été épargnée. Préférant la problématique sociétale aux problèmes de qualité de vie et de classe sociale générés par un libéralisme économique et un productivisme désormais posés, eux, en philosophie de base de notre société, elle s'est progressivement muée en gauche caviar, terme volontiers utilisé pour la désigner dans les années 1980. Et si la gauche caviar a persisté, c'est aussi parce que son électorat est aussi un électorat devenu friand de caviar à bon marché. Et comprenez en caviar le foisonnement de biens de luxe, le luxe étant devenu lui-même une camelote à bon marché. Ce qui fait que plus rien n'existe actuellement en termes de critères pour distinguer une camelote d'une autre. On est entré dans un monde de camelotes futiles où l'essentiel se trouve amalgamé à l'inutile. Quelle utilité donc, désormais, pour une gauche, quelle qu'elle soit, si ce n'est de tenter de monter d'un cran dans une légitimité faite surtout de proclamations qu'aucune marge de manœuvre ne permet désormais de réaliser? C'est de cette question, qui semble se révéler en forme d'impasse, dont traite l'article intitulé « La gauche en quête d'un supplément d'âme », écrit par Evelyne Pieyer, est paru dans le Monde diplomatique de décembre 2019. Ce texte est lu par Léo Serrault.
De Georges Bernanos à Extinction Rebellion, la gauche en quête d'un supplément d'âme. Alors même que la fin de l'espérance révolutionnaire a été popularisée comme une évidence, le rejet des valeurs néolibérales va croissant, tout comme le désir de retrouver un sens à la vie individuelle et collective. Mais cette aspiration tend à s'appuyer de plus en plus sur une recherche spirituelle, où l'objectif d'une révolution sociale peut s'évaporer au profit d'une révolution intérieure. Par Evelyne Pieyer. Depuis le dernier tiers du XXe siècle, on a beaucoup entendu affirmer que nous assistons à la « fin des grands récits ». Le succès de cette expression, empruntée à l'essayiste Jean-François Lyotard, fut tel qu'elle est quasi devenue un cliché. Elle désigne l'échec des conceptions d'une histoire humaine avançant vers une émancipation collective, portée initialement par les Lumières et leur valorisation des pouvoirs de la raison, aptitude universelle. Du libéralisme au marxisme, les faits semblent invalider ces idéaux, animés par le principe espérance, pour reprendre le titre d'un ouvrage majeur d'Ernst Bloch. Son usage médiatique, devenu banal, ne s'embarrasse pas de philosophie, mais a imposé l'idée simple et efficace qu'il est devenu impossible, après Auschwitz, après le stalinisme, de croire en un sens positif de l'histoire et de maintenir la nécessité d'utopie heureuse pour tous. Cette fin des grands récits affirmée comme une vérité d'évidence signerait la fin d'un optimisme généreux, certes, mais dangereux, et disqualifierait comme simple croyance périmée tout projet de transformation du monde. En somme, en un temps définitivement marqué par l'échec des grands mouvements politiques, on ne pourrait plus, à moins d'être regrettablement niais ou de mauvaise foi, adhérer à un ensemble d'idées et de valeurs qui rendraient compte d'un point de vue sur l'humain en général. Le grand soir est une grande blague tragique, la raison s'est révélée un outil au service de l'oppression. Adieu tout horizon commun, adieu tout désir de mettre ses forces au service d'un idéal plus grand que la défense de ses propres intérêts, et bonjour l'ennui, sur fond de mélancolie endeuillée. Place aux petits récits, aux utopies modestes. Il ne reste plus guère qu'à bricoler dans son coin, de quoi donner au moins un sens à sa propre existence. Mais cette entreprise de mise en place d'un imaginaire désenchanté, appuyée sur les leçons de l'histoire, et si élégamment au service de l'idéologie dominante désireuse de s'assurer de la résignation des peuples, commence aujourd'hui à être battue en brèche. Après un assez long moment d'abattement, le modèle proposé par notre supposée postmodernité occidentale se voit déchiffré, de façon diverse assurément, moins comme la réponse du bon sens devant les errements passés que comme une prescription à se conformer aux valeurs bourgeoises. Compromis, réalisme, relativisme, juste milieu et pratique soutenue de l'en même temps, de plus en plus nombreux sont ceux qui refusent ces cache-misères protecteurs de l'ordre en place. Se dessine ainsi la constellation d'un nouveau récit collectif où apparaît à gauche une sensibilité à des démarches spirituelles qui pourtant se revendiquent le plus souvent au-delà des choix politiques. Retour à la mystique contre les valeurs néolibérales, recherche d'un absolu pour le salut de tous, faut-il voir là un ressourcement de l'action pour la transformation sociale ou son dévoiement ? Puissance de la pauvreté. Une quête qui se révèle par exemple dans l'intérêt porté aujourd'hui à des écrivains catholiques comme Georges Bernanos ou Joris Karl Huysmans, pour ne rien dire de l'insistante présence de Charles Péguy et du retour, lent mais persévérant, de l'étincelant pamphlétaire Léon Blois. Huysmans vient notamment d'être accueilli dans la Pléiade, alors même qu'il n'était jusqu'à peu qu'un auteur relativement confidentiel. Michel Houellebecq, le grand contemplateur des couches moyennes, fasciné par ce qui lui apparaît comme une société mortifère et vide, a, dans son avant-dernier roman « Soumission », mis en vedette cet écrivain très fin de siècle, intense, dégoûté, comme le caractérise la préface. Son ouvrage le plus célèbre, « À rebours », fit dire à l'un de ses pairs, Jules Barbet d'Orvilly, qu'il n'avait plus en toute logique le choix qu'entre la bouche d'un pistolet ou les pieds de la croix. Il choisit la croix. Au-delà de Houellebecq, c'est son rejet du désespoir nihiliste et des charmes de l'ego au profit d'une foi rédemptrice qui déclenche sa vogue. Le cas de Bernanos est encore plus clair. Auteur de romans consacrés pour beaucoup à la question du mal, il commence sous la bannière de l'Action française et, proche de Charles Maurras, ne recule pas devant l'antisémitisme. Mais il s'élèvera avec passion contre le franquisme et contre le gouvernement de Vichy, sans renoncer à son monarchisme. Il est lui aussi l'objet d'une forte actualité éditoriale, et Lydie Salvert, qui se réclame de la gauche, lui donne voix dans « Pas pleurer », tandis que François Bégaudeau, peu suspect d'accommodement avec les ambiguïtés, préface son journal d'un curé de campagne. C'est Bégodeau qui exprime le plus nettement les motifs de son intérêt. Il le salue comme un grand vivant qui a su qu'il y a une puissance de la pauvreté alors que nous autres adultes embourgeoisés avons mis des couches de protection sur notre nudité fondamentale. Flamboiement de la conviction, pensée à contre-courant de ses intérêts de classe, lutte pour conserver l'espérance, que Bégodeau comprend comme le souffle de vie qui nous traverse, Bernano représente à ses yeux un antidote à la condition bourgeoise intrinsèquement toxique et aux valeurs cool des couches moyennes cultivées qui permettent agréablement de consentir au système tout en ayant quelques tiraillements de conscience sans conséquence. Cette exigence de radicalité, d'intensité, de refus du confort, cette soif de ce qui rend vivant, à l'opposé des petits arrangements avec l'intériorisation de la fin de l'espérance en des combats libérateurs, se retrouve aussi dans le succès que rencontre, entre autres, l'écrivain voyageur Sylvain Tesson, dont les livres sont très régulièrement des best-sellers. Mais ce n'est pas que le goût de l'extrême et des lointains qui lui vaut des lecteurs en nombre. C'est bien davantage le récit d'un certain héroïsme et d'une démarche de type là encore spirituel. Ainsi, avec son dernier ouvrage, « La Panthère des Neiges », qui lui a valu le prix Renaudot 2019, Tesson, qui rêve du Moyen-Âge et honnit notre temps censé miniaturiser les esprits, n'est pas qu'à l'affût d'un animal en voie de disparition. Que choisir ? Vivre maigre sous les voies lactées ou ruminer au chaud dans la moiteur de ses semblables ? À l'évidence, la modernité néolibérale et ses représentants sont les adversaires des porteurs de cet imaginaire surgissant. Mais c'est moins sous un angle politique que par le prisme de la défense de la vie et de la joie. Il s'agit de dénoncer et de refuser ce qui ôte à l'humain sa capacité d'éveil à plus grand que lui, ce qui relève de la transcendance ou de l'âme. Rien de surprenant donc à la floraison d'ouvrages sur l'éthique ou la méditation. Mais le plus important est sans doute l'inscription dans un courant de fond de cette volonté de retrouver le sens de l'existence humaine dans des actions de masse, ce que traduisent en particulier divers mouvements et théories liées à l'écologie. De certains décroissants, à M. Nicolas Hulot ou à l'organisation Extinction Rebellion, il s'agit bien en effet d'offrir un nouveau projet qui permette d'aller vers un accomplissement de notre humanité, voire de nous racheter en reconnaissant nos fautes pour le plus grand bien de tous, de chacun et de l'ensemble de ce qui est. Place à ce qui nous dépasse, mais nous est commun, qu'on l'appelle la vie, l'être, l'autre, dans toutes ses acceptations. Vincent Chesnais, responsable du journal La Décroissance, dont le slogan est « Le journal de la joie de vivre », l'affirme. S'enrichir en développant sa vie intérieure, voilà la vraie force. Monsieur Hulot souligne, au cours de 24 heures de méditation pour la Terre, l'importance de la dimension éthique et spirituelle. Le politologue Paul Ariès insiste, il faut passer d'une jouissance d'avoir à une jouissance d'être. Cette spiritualité laïque se retrouve dans les idées fondatrices des activistes d'Extinction Rebellion, qui entendent contribuer à faire advenir, comme l'indique leur site, un monde où chacun et chacune trouve du sens avec courage, force et amour, et s'appuie sur les écrits de l'américaine Joanna Macy, docteur S sciences religieuses. Elle est à la source de la notion de culture régénératrice qui donne aux rebelles d'Extinction Rebellion le but authentique de leur action. Remplacer l'anthropocentrisme par l'écocentrisme, c'est-à-dire le vivant dans l'ensemble de ses liens, ce à quoi contribue la pratique du yoga et de la méditation. Âme du vivant, âme de l'humain, l'accent n'est pas toujours le même, mais se formule ici une nouvelle représentation anthropologique qui incite l'humain à renoncer à sa supposée maîtrise du monde pour prendre sa place, modeste, parmi tout ce qui vit. Se dessine une vision du bonheur nourrie du dédain des biens et de la joie des liens. Valeur enfin authentique, dont seule la lutte pour leur partage permettra de sauver et la terre et la population et l'humanité de chacun, enfin désaliéné. Le combat contre les forces de mort engendrées par le culte du veau d'or fait ainsi se côtoyer le conservateur, voire le réactionnaire, et ce qu'on avait coutume d'appeler le progressiste, voire le révolutionnaire. Dans son dernier livre, M. François Ruffin, député La France insoumise, interroge les enjeux de la crise écologique et entreprend de « rouvrir un chemin pour la gauche ». Or, sa révolte contre l'économisme le conduit à affirmer « j'assume l'au-delà » et à revendiquer un rôle spirituel. Il fait partie de « ceux à qui l'iPhone 7 ne suffit pas » et qui cherchent, pour citer Peggy, un « au-delà des misères du présent ». Rejoignons ainsi l'un des grands inspirateurs des décroissants, Bernanos, qui, dans La France contre les robots, assure « on ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure ». Cet au-delà, ce fut longtemps l'idéal rouge qui l'a représenté, porté par sa conception matérialiste de l'histoire. Monsieur Ruffin le revendique toujours, mais en soulignant « est-ce que sa grande force n'était pas spirituelle ? Est-ce que le communisme n'était pas avant tout un désir de communion ?» L'au-delà, aujourd'hui, ce serait d'abord l'ouverture à la quête métaphysique, ce serait l'insurrection de l'âme réclamant la fraternité effective avec tout ce qui est, au plus loin du consumérisme et de l'individualisme. Le comité invisible avait pour sa part déjà affirmé, naguère, à propos de la catastrophe qu'est l'Occident, cette catastrophe est d'abord existentielle, affective, métaphysique. Un idéal collectif toujours ardent. Ce genre différent de grand récit qui réapparaît ainsi a le vif intérêt de rappeler que le désir de se vouer, corps et âme, à un idéal collectif est toujours ardent. Mais il faut bien reconnaître que souvent il évapore la lutte des classes pour désigner un nouvel ennemi, l'embourgeoisé, le consommateur, le puissant et leur vieux monde. Et il est difficile de ne pas noter, dans cette irruption d'un nouveau romantisme lyrique et contagieux, une hostilité fréquente à l'encontre de la raison et de sa capacité libératrice pour lui préférer l'élan de la sensibilité comme porteur d'une vérité supérieure. Ce qui est caractéristique de nombre de pensées d'extrême droite et suppose une douce passivité devant l'émotion. La révolution intérieure, pour tous, est un combat qui rencontre nettement moins d'obstacles de la part des pouvoirs que les projets de révolution sociale. Mais on ne peut s'empêcher de se demander si les tenants de cette dernière ne devraient pas, eux aussi, pratiquer avec grandeur l'absence de tiédeur, saluer l'inquiétude et réclamer le droit aux beautés de la vie pour rendre vibrant leur propre objectif, la libération des capacités d'invention et d'accomplissement de notre commune humanité par la fin de l'exploitation.
À la conception de l'émission, à la réalisation et à la mise en onde, Patrick Rion, Jean-Luc Rochat, Fabio Cattaneo. Éditeur responsable, Patrick Rion. En partenariat avec Radio Django, qui permet la diffusion des émissions de Tout le monde est beau.
Coming down, sweetie's snack bar boarded up now, and Eccles the tailor and the shine boy's gone, faded out with ragtime blues. Handy's cast in bronze and he's standing in a little park with his trumpet in his hand, like he's listening back to the good old band. And the click of high.
that he'll choose. Old Furry sings the blues, propped up in his bed with his dentures and his leg removed. And Jenny's there for her kindness and Furry's beer. She's the old man's angel overseer. Chops glitter like gold tooth caps. In the gray decay, they chew the last few dollars off old Beale Street's carcass. Carrion and mercy, blue and silver sparkling drums, cheap guitars, eye shades and guns aimed at the hot blood of the unknown. Down and out in Memphis, Tennessee, old Furry sings the blues. Bring him smoke and drink and he'll play for you. It's mostly muttering now and sideshow spiel, but there was one song he played I could really feel. Double bill murder at the New Daisy. The old girl's silent across the street. She's silent, waiting for the record's beat. Silent, staring at her stolen name. Diamond boys and satin dolls, bourbon laughter, ghosts, history falls to parking lots and shopping malls. As they tear down old Beale Street, old Furry sings the blues. He points a bony finger at you and says, I don't like you. Everybody laughs as if it's the old man's standard joke, but it's true, we're only welcome for our drink and smoke. See, Handy, I'm rich and I'm fame, and I'm not familiar with what you played, but I get such strong impressions of your heyday. Looking up and down old Beale Street, ghosts of the dark town society come right out of the bricks at me. Like it's a Saturday night, they're in their finery, dancing it up and making deals. Furry sings the blues. Why should I expect that old guy to give it to me true? Fall into hard luck and time and other thieves, while our limo is shining on his shanty street. Oh, Furry. Thank you.